Philippe Le Caplin.
Des cris et des coups sur des vidéos violentes qui courent sur les réseaux sociaux, reprises bien souvent par les journaux télévisés. Avant-hier, dans la presse, une pétition d'une centaine d'acteurs de l'éducation, de la justice, de l'action sociale. Vendredi dernier, une réunion au sommet avec les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation pour s'inquiéter et réagir aux violences commises par des bandes de jeunes. Des rixes entre jeunes qui ont endeuillé la région parisienne récemment. Il y a eu ce jeune Youri tabassé presque à mort. Le décès d'une collégienne et d'un collégien de 14 ans poignardé dans l'Essonne. Le ministre de l'Intérieur qui a envoyé une note à l'ensemble des préfets pour leur demander la réactivation du plan de lutte contre les bandes. Au-delà de l'émotion, est-ce qu'on assiste là à un phénomène nouveau ou bien une résurgence de ce qui s'appelait à une époque les blousons noirs? Y a-t-il un emballement politico-médiatique? Comment gérer cette situation? Autant de questions posées dans le débat du jour, ce soir, sur Radio France Internationale.
RFI.
Bonsoir Thomas Sauvadet.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste des bandes, enseignant-chercheur à l'université Paris-Est-Créteil. Bonsoir Nadir Kaya.
Bonsoir.
Vous présidez l'association Banlieue Plus et nos quartiers et vous êtes signataire justement de la pétition dont je parlais il y a de cela un instant. Et Alain Bauer est également avec nous. Bonsoir Monsieur Bauer.
Bonsoir.
Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Alors en 1907, le journal Le Parisien titrait « Ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus nombreux ». Je l'évoquais voilà quelques instants, dans les années 50, les blousons noirs défrayaient la chronique. Il y a eu aussi les apaches, les loubards, les malandrins, les voyous, autres chenapans, sauvageons ou encore racailles dont un ancien président de la République promettait de venir à bout à coups de karcher. Thomas Sauvadet, n'y a-t-il finalement rien de bien nouveau dans ce phénomène de bande? Sommes-nous aujourd'hui face à un phénomène cyclique?
Ça existe effectivement dans quasiment tous les pays, à toutes les époques, depuis le Moyen-Âge. Après, ce qui est intéressant pour un sociologue, c'est l'intensité en fait de ces phénomènes, de ces dynamiques de groupe, de ces phénomènes de bande, c'est-à-dire entre les apaches et les blousons noirs, par exemple, il y a des différences très très importantes dans l'usage de la violence. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comparer les bandes d'aujourd'hui par rapport aux bandes d'hier. Après, la bande en soi, effectivement, existe depuis toujours et encore pour très longtemps, on imagine.
On en parle de plus en plus. Est-ce une simple loi des séries sur laquelle se seraient braqués les projecteurs, Alain Bauer?
Bon, je crois que surtout, ce qu'on voit de plus en plus permet d'en parler de plus en plus. Et donc, la mise en scène des phénomènes des affrontements est un élément qui reflète une intensité particulière. Mais si vous regardez les éditions du Petit Journal ou de la grande presse populaire entre 1880 et 1920, vous verrez que l'essentiel est marqué par les surineurs, c'est-à-dire des agressions au couteau et des phénomènes de faits divers qui ont à peu près la même intensité qu'aujourd'hui, l'image vivante en moins.
À l'époque, c'était Paris, le cœur de Paris. Aujourd'hui, ce sont les banlieues. Est-ce que, Nadir Kaya, vous constatez ce phénomène de bande de manière plus prégnante, on va dire, depuis les années 60, les constructions des grandes cités ou en banlieue parisienne?
Alors, c'est pas un phénomène nouveau. On peut l'appeler différemment aujourd'hui. On parle de rixes. Pour avoir un certain âge, moi, j'ai connu très tôt en banlieue, et c'est vrai même dans certains quartiers de Paris, des rassemblements de jeunes qui venaient s'affronter. Donc ça a toujours existé. Certes, c'est pas un phénomène qui est propre à la France ou aux quartiers dits français. C'est un phénomène qui est propre à des sociétés comme les nôtres, ou très urbanisées, où vous avez beaucoup de regroupements de bars et d'individus qui sont aussi confrontés à des problématiques qui sont des problématiques sociales. Mais c'est des problèmes qui ont toujours existé dans les quartiers.
Est-ce que finalement on assiste avec ce phénomène de rixes à une sorte, une fois de plus, d'américanisation de la société française? Parce que les bandes, il y en a à Los Angeles, il y en a en Amérique centrale, Thomas Sauvadet. C'est un phénomène qui existe là aussi depuis bien longtemps.
Alors dans ces pays-là, on parlera plutôt de gangs qui se distinguent des bandes des quartiers pauvres des métropoles françaises, notamment par leur existence transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a une culture de gang qui est transmise de génération en génération avec des codes, avec une appellation, un nom, une identité, des codes vestimentaires, des codes gestuels qui sont transmis. Il y a une véritable transmission générationnelle qui est très différente de ce qu'on peut observer en France. Et par ailleurs, ces gangs dans ces pays-là, comme les États-Unis, contrôlent la totalité du quartier. C'est-à-dire que ce sont vraiment des acteurs institutionnels qui parlent avec les élus locaux, qui parlent avec la police, qui gèrent toutes les activités économiques du quartier, qui ont des armes de guerre et qui ont un peu une sorte de droit de vie ou de mort sur les habitants du ghetto, avec par exemple des recrutements forcés lors des guerres de gangs. Vous avez des gangs qui recrutent sous la menace, sous la contrainte des jeunes pour aller affronter d'autres gangs. Donc on est sur des phénomènes là où on peut parler véritablement d'ultra-violence.
Oui, l'ultra-violence de guerre, alors que là on parle de rixes, même si les rixes, on le voit, malheureusement, peuvent être mortels. Alain Bauer, je lisais ce que disait Laurent Mucchielli du CNRS. Il parle de panique politico-médiatique qui n'arrive pas à n'importe quel moment, sachant qu'il y a des élections présidentielles dans un an. Comment vous interprétez ce commentaire? Est-ce que vous le partagez?
Oh, je commente assez rarement les interventions de Laurent Mucchielli, pour diverses raisons d'ailleurs, parce qu'il y a un côté sociologue d'un côté, sociolâtre de l'autre et militant au milieu, qui amène à être un peu difficile à savoir ce qu'il faut commenter. Donc je m'évite ce genre de choses. Il est vrai qu'il y a toujours, à des moments particuliers de notre histoire, c'était le cas avec Papivoise il y a quelques années, et c'est ce qui fait peut-être référence, à un moment où il y a une hyper-focalisation sur des phénomènes particuliers. Ceci posé, dans ce cas précis, ce ne sont pas seulement des rixes ou des affrontements, mais il y a des morts, il y en a même un certain nombre, et donc le cumul de ces phénomènes qui peuvent choquer l'opinion car les morts sont jeunes ou même très jeunes, suffit naturellement à se poser la question du traitement médiatique de ces événements. Et il faut toujours faire attention à ne pas sous-estimer la mort d'individus très jeunes dans des conditions parfois extrêmement surprenantes, c'est-à-dire une grande indifférence à la mort et à la violence dans des conflits adolescents, et d'un autre côté, la réalité du fait qu'il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau et qu'il est parfois extraordinairement exagéré et focalisé, notamment par ce qu'on appelle aujourd'hui l'information en continu, c'est-à-dire la télé-réalité en continu.
Alors il y a la caisse de résonance médiatique, il y a aussi les chiffres, les faits. Alors je vous donne les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur qui vont dans le sens d'une augmentation des affrontements, puisque l'année dernière, 357 affrontements entre bandes de quartiers ou groupes informels ont été recensés sur l'ensemble du territoire, contre 288 pour l'année 2019, ce qui représente une hausse de 24%. 3 personnes sont décédées, 218 ont été blessées, et il existerait 74 bandes rivales en France, 70 en Île-de-France. Thomas Sauvédé, vous êtes donc un spécialiste des bandes. Est-ce qu'on peut parler d'une augmentation de la violence chez les jeunes par le biais de ces chiffres que vous ne contestez pas? Parce que je sais qu'il y a eu polémique. Le Monde remettait en perspective ces chiffres il y a de cela quelques jours, le journal Le Monde.
Bah, je crois qu'effectivement, il y a une évolution préoccupante au niveau de la violence dans les phénomènes de bandes. Et notamment, je me méfie souvent des chiffres, puisque la plupart des violences entre jeunes de la même bande ou entre jeunes de bandes du même quartier ou entre bandes de quartiers rivaux ne sont pas répertoriées par les services de police ou de gendarmerie, puisqu'il s'agit souvent de violences qui sont dans l'entre-soi. Et donc, il y a très peu de témoins, très peu de dépôts de plaintes. Et par ailleurs, ce sont des jeunes qui sont très difficilement concernés par les enquêtes de victimation. Donc c'est vraiment un trou noir statistique et on voit que la partie émergée de l'iceberg. Et puis sur le chiffre qui me paraît le plus contestable, c'est ce chiffre de 74 bandes avec 70 en Île-de-France, alors qu'on est sur beaucoup de quartiers, selon mes observations, mes enquêtes ethnographiques, à peu près une dizaine de bandes, y compris des fois des bandes d'enfants et surtout aussi des bandes de jeunes adultes. C'est le phénomène le plus fort en fait, hein, au niveau de l'évolution des bandes, c'est le vieillissement des bandes avec des jeunes qui peuvent avoir entre 20 et 35 ans et qui sont toujours impliqués dans les bandes et qui transmettent des savoir-faire, des savoir-être, qui accélèrent les carrières délinquantes, voire criminelles des plus jeunes, puisque en fait ils sont dans des activités, ils s'engagent dans des activités avec beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de détermination que les adolescents.
Nadir Kaya, vous êtes donc le président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers qui intervient notamment dans le 9-3, comme on dit, 93, la Seine-Saint-Denis. Il y a Asnières, il y a Gennevilliers, ça avait donné des affrontements qui s'étaient soldés par la mort de jeunes il y a ça quelques années.
Oui, on a malheureusement régulièrement des affrontements entre différentes bandes appartenant à des quartiers de Gennevilliers comme à des quartiers d'Asnières, parce que c'est des villes qui sont limitrophes. Mais vous avez également les mêmes phénomènes du côté de Bagnolet, Montreuil, un peu partout. Après, vous évoquiez tout à l'heure, si vous voulez, les propos de politique ou des postures politiciennes à des moments bien précis, notamment électoralistes. Moi, c'est ce qui me désole aujourd'hui, c'est parce que ces phénomènes existent depuis toujours. On le dit, c'est pas nouveau. Donc, ça fait 40 ans qu'en France, les différents gouvernements de gauche comme de droite font des constats, mais malheureusement n'agissent pas parce que ils font souvent, si vous voulez, des réactions auprès de l'opinion publique pour faire croire à des interventions, notamment d'un point de vue répressif, et c'est pas comme ça que ça fonctionne.
On verra quelles solutions peuvent être envisagées. Mais vous, sur le terrain, est-ce que vous constatez cette augmentation, d'après les chiffres, d'une violence de rixes entre bandes de jeunes?
Non, sur le terrain, non. Sur les réseaux sociaux, oui, parce que maintenant, aujourd'hui, ça amplifie un peu le phénomène, donc ça donne cette impression d'accroissement, mais pas du tout. Sur le terrain, ça peut arriver. Nous, on intervient parce que on a un réseau associatif un peu partout qui fait que quand il y a déjà des histoires entre quartiers, on nous appelle pour... On est un petit peu les grands frères et même les pères maintenant à notre âge, donc on essaie d'intervenir quand il y a des débuts d'embrouilles entre jeunes. Mais c'est parfois très difficile.
Alain Bauer, criminologue, vous suivez cela depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous dites, vous? Que c'est autant qu'avant, simplement on en parle plus, ou c'est plus qu'avant?
Non, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il faut toujours être très attentif à éviter les généralisations hâtives. D'abord, une bande, c'est un territoire, et c'est l'élément le plus important. Et ce n'est pas un territoire de banlieue, comme ceci a été rappelé. Il y a beaucoup d'affaires qui sont dans des villes et même dans des centres-villes. Donc, il faut sortir de cette idée paradoxale. Deuxièmement, les territoires ne sont pas stables. Ils ont beaucoup évolué au cours du temps. Il y a un phénomène d'implantation, un phénomène d'appropriation, un phénomène d'expansion. Et puis la bande, c'est un endroit où on se crée une identité. Elle a un côté initiatique. La violence peut devenir mimétique. Et puis il y a des répliques. Monsieur Sauvadet avait fait un excellent ouvrage sur le capital guerrier qui expliquait aussi l'affirmation particulière des bandes de garçons. Aujourd'hui, il faut prendre en considération l'existence de bandes de filles. Et puis, vous avez des mécanismes aujourd'hui où l'humiliation n'est plus seulement un phénomène privé ou réduit, mais largement diffusé. Ce que j'appelais tout à l'heure la télé-réalité permanente, c'est à la fois l'utilisation de ces phénomènes pour des motifs médiatiques ou politiques, mais c'est aussi une réalité dans la vie quotidienne des individus. Donc il faut considérer qu'on est devant les mêmes situations qu'avant, avec une dégradation depuis une dizaine d'années sur les coups et blessures volontaires, les tentatives d'homicide et les homicides, qui est une réalité physique. Et puis un enjeu majeur aujourd'hui, qui est la capacité de la médiatisation et de la télé-réalité personnelle à déclencher de la violence comme un phénomène de vie normale.
Vous y faisiez allusion à l'instant, Lebauer. Pour les adolescents, appartenir à une bande, ce serait une sorte de rite de passage. Se constituer une bande de copains pour devenir adulte, il faut déjà passer par la case groupe, Thomas Sauvadet?
Alors, je suis un peu contre cette expression de rite de passage, puisque j'ai parlé avec des élus locaux qui pensaient que les jeunes de leur ville avaient un peu cette obligation, que c'était culturel comme du folklore, et que c'était un rite de passage qu'il fallait bien accepter à un moment donné ou à un autre. Donc je disais à ces élus locaux qu'il fallait qu'ils fassent attention, puisqu'on est en fait sur des toutes petites minorités de la jeunesse des quartiers pauvres en question. Selon mes enquêtes, on est à peu près à 10% des jeunes de sexe masculin de moins de 30 ans, donc déjà ça exclut... la plupart des filles, 99% des filles ne sont pas concernées et 90% des garçons ne sont pas concernés. Donc du coup, le rite de passage risque de laisser penser à ceux qui nous écoutent que quand on est jeune et qu'on habite ces quartiers-là, on est plus ou moins obligé de passer par là, ce qui est totalement faux. Après, pour les jeunes qui sont dans des bandes, donc qui font partie de cette minorité de 10%, on peut voir effectivement certaines formes de rites de passage, mais il faut encore là peut-être nuancer, notamment avec certains profils qui vont très très vite vers la délinquance d'acquisition, qui sont très vite dans des carrières délinquantes, voire criminelles, et qui en fait ont peu d'intérêt dans ces rixes interquartiers ou ces émeutes, qui se focalisent notamment sur le vol et le deal, et donc qui se détachent très très vite en fait de ces bagarres dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, et qui sont pourtant des adolescents ou des jeunes hommes qui sont très influents, très respectés, et ont un capital guerrier beaucoup plus élevé que les autres, et qui sont souvent pris comme modèle d'ailleurs par leur entourage.
Vous écoutez le débat du jour sur RFI, Radio France Internationale.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
À propos de ces batailles rangées qui aboutissent à des lynchages et des images insupportables diffusées sur les réseaux sociaux, alors quelles sont les motivations de ces jeunes? On parle souvent d'une dispute pour un regard, une tension amoureuse. Est-ce que c'est toujours aussi futile que ça, Nadir Kaya?
Je dirais que ça l'est souvent, malheureusement. C'est souvent des personnes qui sont attachées à leur territoire ou à leur quartier, et qui ont besoin d'exprimer certaines choses qui sont dues à leurs conditions sociales. Hein. Il faut pas le nier. Vous avez souvent des enfants qui sont déscolarisés ou qui sont un peu plus âgés, qui ont des problèmes à trouver du travail, donc ils se réfugient dans ces espèces de groupes. Après, c'est vrai que il y avait des invités qui faisaient le parallèle avec les gangs aux États-Unis ou en Amérique latine. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose en France. C'est pas du tout perçu et construit comme ça. C'est plutôt des amis de quartier qui vivent ensemble les mêmes difficultés dans un quartier et qui sont de temps en temps amenés à avoir des rivalités. On peut le trouver aussi dans le domaine du sport, mais également dans ces phénomènes assez simples entre personnes issues des quartiers populaires.
Et ce côté épidermique, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a un véritable terreau, Alain Bauer? L'ennui, le désœuvrement, l'oisiveté, l'inactivité, le chômage dans bon nombre de ces quartiers et de ces banlieues dites défavorisées?
Alors, c'est un critère qu'on ne peut pas mettre de côté, mais vu la permanence et la problématique dont on vient de raconter, à quel point elle était ancrée dans l'histoire, il ne faut pas non plus que le social devienne l'explication à tout, y compris la violence, et notamment la violence criminelle. Si on prend les proportions données par Thomas Sauvadet, 90-10 indique donc qu'il y a autre chose qui est un mécanisme qu'il faut prendre en considération, et cette autre chose est bien plus importante que la seule question sociale. Il ne faut pas l'éliminer ni la sous-estimer, il ne faut pas la surestimer.
Alors quel est-il, ce ressort?
En criminologie, on a trois mécanismes de passage à l'acte, le besoin, l'envie et le plaisir. Chacun trouve sa place. Le besoin parce qu'il exprime une violence contre une société qui ne laisse pas la possibilité de vivre ou de vivre normalement, l'envie, une société qui exprime des modèles de réussite et qui ne les, notamment par la publicité, et qui ne permettent pas d'y accéder sauf par des mécanismes d'acquisition ou entre guillemets tomber du camion, et puis le plaisir qui est la violence pure dont on peut avoir des éléments psychologiques ou psychiatriques ou simplement de rationaliser la violence comme un mécanisme normal de vie, et donc on ne peut pas tout mélanger dans ces trois modes de passage à l'acte.
Thomas Sauvadet de l'UPEC, est-ce que la drogue aggrave le phénomène?
Oui, la consommation de drogue. On a aujourd'hui des profils de jeunes qui sont avec des consommations très importantes, notamment de cannabis et d'alcool. Et c'est aussi ce qui explique avec, disons, une certaine culture de bande et l'évolution du trafic de stupéfiants, notamment de cannabis, l'outillage de la violence. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui grandissent avec un imaginaire qui s'inspire de la culture de bande qu'on voit dans les clips de gangsta rap, qui elle-même s'inspire de la culture des gangs américains, qui grandissent dans des quartiers où le trafic de cannabis en particulier est devenu très présent, qui sont entourés de cette violence, soit virtuelle, soit bien réelle, qui est celle du trafic, et qui, par ailleurs, sont souvent dans des consommations de drogue assez importantes. Donc l'outillage de la violence devient le moyen privilégié pour régler ses comptes, et on voit notamment la question des armes blanches, qui est dans certains quartiers très inquiétante, où la plupart se promènent avec des armes blanches, et d'ailleurs expliquent eux-mêmes qu'ils s'enferment en fait dans leur propre prison, puisqu'ils ne peuvent plus aller à tel établissement scolaire, ils ne peuvent plus prendre telle ligne de bus, Et puis aussi la question des armes à feu, qui est très montrée en fait dans la culture de bande, notamment à travers le gangster rap. Donc il y a tout un imaginaire sur les armes à feu qui nourrit, qui alimente les jeunes, et puis qu'il y ait des armes à feu qui sont aussi présentes dans les trafics de stupéfiants.
Nadir Kaya, vous constatez également ces armes qui circulent et ce business de la drogue qui exacerbe les rancœurs des uns envers les autres?
Alors pour les armes, moi personnellement, j'en vois pas dans les quartiers. C'est pas des choses qui sont visibles. J'imagine bien que ça peut exister. On le voit dans les reportages ou dans les faits divers où il y a usage de certaines armes. Ça c'est clair. Après, les trafics de drogue, je pense que là aussi, ils peuvent contribuer à ce type de violence, mais c'est pas ça. Les rixes, comme je vous ai dit, dans les quartiers, pour les avoir connus, c'est vraiment des rivalités assez bébêtes entre personnes de différents quartiers, aussi simple que ça. Le fait d'appartenir à un quartier dans une même ville, je vous ai dit déjà, il y a des rixes entre quartiers d'une même ville, comme vous avez des rixes par rapport à des villes qui sont limitrophes. Donc, au-delà des constats, parce que j'entends ce qui se dit tout à l'heure, c'est très intéressant, même d'un point de vue de sociologue ou d'expert comme Monsieur Bauer, moi, en tant que militant associatif, je m'interroge parce que même s'ils le disent avec leurs mots, avec leur expérience, moi, j'ai mes mots et mon expérience également, mais moi, ce qui me désole, c'est qu'au bout de 40 ans, on est encore dans ce genre de débat.
Au début de l'émission, on entendait le son d'une vidéo diffusée sur Internet et sur les réseaux sociaux, parce que finalement, c'est là qu'on se provoque, c'est là qu'on s'interpelle, c'est là qu'on s'engraine, c'est là qu'on se montre avec Snapchat et ces messages qui se détruisent et ne laissent pas de traces. C'est un relais de ces rixes. Les échanges se diffusent comme une traînée de poudre. Ça, c'est véritablement nouveau. On voyait tout à l'heure que vous vous accordiez les uns les autres sur le fait que le phénomène de bande n'était pas un phénomène 2021. Mais en tout cas, la manière dont il se développe, dans la manière dont il s'étend, ça, c'est typiquement lié aux réseaux sociaux, Alain Bauer.
C'est un phénomène d'accélération, d'expansion de la diffusion, de répétition. L'humiliation d'un côté et l'obligation de montrer qu'on va soit provoquer, soit répliquer un épisode précédent qui fait une sorte de cloche-merle surmultipliée est un élément qui permet effectivement une accélération de la diffusion. Mais c'est le même processus de sa propre télé-réalité organisée autour de soi-même. Et il y a là effectivement un élément de préoccupation plus particulier parce que ça intensifie des phénomènes déjà existants, ça ne les invente pas.
Et ça les accélère, la temporalité est très importante parce que l'affrontement est organisé en quelques minutes. Et il est suivi quasiment en temps réel par des centaines de personnes, Thomas Sauvadet.
Oui, c'est un accélérateur, c'est un déclencheur, c'est un moyen de rester connecté à l'actualité des bandes. Je crois que c'est l'une des difficultés d'aujourd'hui avec certains adolescents qui ne déconnectent pas à travers leur smartphone, à travers YouTube, à travers les réseaux sociaux. Ils sont plus ou moins en permanence connectés à des vidéos qui montrent des bandes, qui montrent des embrouilles, qui montrent des armes. Il suffit de regarder des clips de gangsta rap aujourd'hui pour voir qu'il y a un étalage de capital guerrier avec des liasses de billets, avec des armes, etc., qui n'avait rien à voir avec le rap de la fin des années 80, début 90. Donc il y a toute une industrie culturelle, c'est pas uniquement les réseaux sociaux, c'est l'industrie du cinéma, c'est des séries, c'est des jeux vidéo comme GTA V. C'est tout un univers qui, quand on est un jeune qui a une vie à peu près normale, on fait la différence entre le réel et le virtuel, mais quand on est dans une bande avec des embrouilles régulières et qu'en plus on reste connecté en permanence à une sorte d'imaginaire guerrier médiatisé à travers cette industrie culturelle, il y a une perte de connexion avec la réalité et on peut se demander, en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'éducateur, comment est-ce qu'on explique qu'une culture de bande qui se réfère à la culture des gangs juvéniles, des ghettos américains, ait pu devenir une culture mainstream, profondément intégrée à l'industrie culturelle et au show business, qui se diffuse dans l'ensemble de la société, que l'on retrouve aujourd'hui, y compris en milieu rural ou dans des dans les classes supérieures.
Alors, comment casser l'engrenage? On ne peut accepter la banalisation de la violence qui illustre la multiplication des rixes, a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres où le sujet a été abordé. Alors, je le disais tout à l'heure, plusieurs responsables associatifs, syndicaux, citoyens, professionnels de l'éducation et du social, ainsi que quelques élus de gauche, ont proposé dans un texte paru sur le site de France Info un certain nombre de mesures. Et donc, l'association Banlieue Plus et nos quartiers l'a signé, cette pétition. Quelles sont vos principales demandes au conseil, Nadir Kaya?
Alors, comme ce qui a été dit, si vous voulez, aujourd'hui, en termes de solutions, déjà la première des solutions, c'est d'avoir la volonté politique. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, malheureusement, il y ait une volonté politique de vouloir résoudre ce phénomène. Parce que je pense que si ça aurait été le cas, je pense que M. Macron et son gouvernement l'auraient fait d'entrée de jeu au début de son quinquennat. Là, on arrive à terme, donc voilà, c'est un peu trop tard. C'est ce qui est malheureux avec le temps politique. Après, il y a des choses qui peuvent se faire avec les acteurs associatifs, avec des sociologues.
Concrètement.
Concrètement, il n'y a pas de baguette magique, c'est du travail. C'est sûr qu'il faut un accompagnement des politiques, mais je vous ai dit déjà, à ce niveau-là, il n'y a pas de volonté politique. Donc c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens se passent du monde politique. On fait les choses sur le terrain parce qu'on vit sur le terrain. Donc à partir de là, des personnes qui sont dans le milieu associatif, comme des citoyens engagés, eux essayent d'intervenir à travers leurs compétences, de régler certaines situations. Mais il faut absolument qu'on soit soutenu par les politiques. Mais malheureusement, il y a aussi ce jeu malsain de politique qui est ce qu'on appelle le clientélisme aussi, et qui ne favorise pas les dynamiques à résoudre ce type
Alors,
de problème.
Parmi les choses que vous avez signées sur le site de France Info, il y a la création de postes supplémentaires de médiateurs. Des médiateurs, il y en a à Paris une vingtaine. Ils sont spécialisés dans les RICS, hein, je crois, Thomas Sauvadet.
Oui, il y a de la médiation qui s'est développée pour prévenir les RICS interquartiers. Après, c'est très très compliqué en fait la médiation de quartier, la médiation sociale de quartier, parce que on est dans des quartiers où vous avez quelques médiateurs qui se retrouvent dans des situations très compliquées avec des bandes de jeunes qui quand même mettent la pression et qui sont en position dominante dans la vie sociale du quartier. Donc,
vous voulez dire qu'un grand frère ne peut pas faire grand chose finalement, ce qu'on appelle les grands frères.
Je me souviens d'un directeur de club de prévention qui me disait par rapport à la médiation sociale de quartier que c'était très compliqué de recruter parce que il y avait le problème à la fois du planqué, c'est-à-dire du médiateur qui fait son petit tour dans le quartier mais qui n'agit pas, ou la problématique de la connivence.
Vous voulez dire Nadir Kaya.
Voilà, parce qu'on a souvent des médiateurs qui sont pas eux-mêmes issus, soit du quartier ou de la ville. Donc ça, c'est un vrai problème. Après, c'est sûr qu'il faut démultiplier les moyens, notamment humains. À ce niveau-là, vous évoquiez le chiffre de 20 sur Paris. C'est vraiment pas raisonnable et c'est pas à la hauteur des attentes. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire la vraie volonté politique de mettre autant des moyens financiers, mais surtout des moyens humains en termes de compétences. Et là, il y a un vrai problème aujourd'hui en France.
Autre chose, la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, compte sur le recours à l'interdiction de paraître. C'est en expérimentation à Bobigny, à Montpellier et à Senlis. Alain Bauer, vous en pensez quoi? C'est-à-dire l'interdiction pour un jeune de rester dans son quartier s'il a mal agi.
Oui, l'éloigner.
Il faut le mettre quelque part, et ce qui ne résout pas beaucoup les situations. Mais si c'est un phénomène provisoire et qu'il y a un accompagnement qui ne se limite pas à l'interdit de, mais qu'il y a un accompagnement à la fois sociale, une capacité à faire revenir des règles et des régulations, mais ça nécessite un mouvement et une mobilisation de la société. Il se trouve que la société, elle a sous-traité, elle a considéré qu'il fallait déréguler, elle a considéré que après tout, c'était toujours le problème de quelqu'un d'autre, et le système fonctionne en silo. Donc, il pose les mêmes problèmes que ce que Monsieur Kaya disait, c'est-à-dire que ce qui est dramatique, c'est que 40 ou 50 ans après, nous en soyons encore à faire les mêmes diagnostics, une partie des mêmes pronostics, et que nous n'ayons qu'une très faible vision thérapeutique.
Pour terminer, vous avez le mot de la fin, Thomas Sauvadet.
Sur les solutions, je crois qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes structurels, notamment liés au travail et au logement, qui expliquent en partie le vieillissement des vieilles bandes. On a aussi le problème que j'évoquais tout à l'heure sur la culture de bande qui devient une culture mainstream et qui devient très influente. Et donc, il faut réduire cette influence culturelle.
Et donc, on voit que vous appelez de vos voeux un vrai travail en profondeur les uns les autres. Ce n'est pas quelques mesures, quelques cataplasmes qui peuvent résoudre la situation. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Merci pour vos commentaires, vos éclairages aux uns et aux autres. Thomas Sauvadet, Nadir Kaya et Alain Bauer dans le débat du jour ce soir sur Radio France Internationale.
Géopolitique, le débat, Chantal Leroux.